Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de voir les gens tournés vers Jésus-Christ. Et chacune de ces trois personnes qui ont pris le baptême la trois dernières semaines, la sœur Anicia et le frère Florian et la sœur Autrine, hein, ils ont eu un rendez-vous avec Dieu dans leur vie personnelle un jour. Et tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'évangile de Jean. On va voir l'évangile de Jean, le chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4. Nous allons lire presque tout le chapitre. Je commence avec le verset 1. Quand donc le Seigneur connut que le pharisien avait entendu dire « Jésus fait et baptisé plus de disciples que Jean » et entre parenthèses le verset 2 « Toutefois Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples. » Il quitta la Judée et s'en alla encore en Galilée. Il fallait qu'il traversât la Samarie. Il vient donc à une ville de la Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob donna à Joseph, son fils. Il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus donc, étant lassé du chemin, se tenait là, assis sur la fontaine. C'était environ la sixième heure. Le verset 7. Une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit donc, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Car les juifs n'ont point de relation avec les samaritaines. Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », toi, tu lui eus demandé et lui eus donné de l'eau vive. La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits, et lui-même en a bu, et ses fils et son bétail ?» Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie pas soif et que je ne vienne pas ici pour puiser. » Le verset 16, Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari. » Et viens ici. La femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu as dit vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci, et vous, vous dites que Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, où vous adorez, vous ne savez quoi. Nous avons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Car aussi le Père en cherche de tels qui l'adorent, Dieu et esprit. » Il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie qui est appelé le Christ vient. Quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. » Et là-dessus, ses disciples vinrent et ils étonneraient de ce qu'ils parler avec une femme. Toutefois, nul ne dit, « Que lui demandes-tu » ou de quoi parles-tu avec elle ?» La femme donc laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux hommes, « Voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il point le Christ ?» Il sortit de la ville et il venait vers lui. Mais pendant ce temps, le disciple le priait, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « Moi, j'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas. » Les disciples donc dirent entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » On va sauter à verset 39. « Or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, il le priait de demeurer avec eux. Il demeura là 2 jours et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ton dire que nous croyons, car nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous connaissons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde. » Or, après les 2 jours, il partit de là et s'en alla en Galilée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons dans notre texte aujourd'hui d'une rencontre la plus fascinante que Jésus ait eue au cours de sa vie et de son ministère sur cette terre. À première vue, cela peut nous sembler une rencontre accidentelle. La Samaritaine choisit une certaine heure pour venir au puits chercher de l'eau alors qu'il n'y est pratiquement aucune chance de rencontrer quelqu'un, pas même une autre femme. Jésus traversait cette région, une région que presque tous les Juifs choisiraient d'éviter en raison de la façon dont ils traitaient les Samaritains. Avant même d'aller voir en détail la rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine, nous devrions répondre à cette question. Est-ce que cette rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine fut-il un fruit de hasard? La Samarie était sur la route directe entre la Judée et la Galilée. Mais peu de Juifs ont pris cette route directe. La région de Samarie était tellement méprisée par le peuple juif qu'elle prenait souvent une route très détournée à travers Péréa pour se rendre au nord de la Galilée. Judas se trouvait dans le sud et Galilée, c'était dans le nord. Il y avait une vieille querelle de plusieurs siècles entre les Juifs et les Samaritains. Vers l'an 720 avant Jésus-Christ, les Assyriens avaient envahi le royaume nord de la Samarie. Et l'avait capturé et subjugué. Il faisait ce que le conquérant faisait souvent à cette époque-là. Il transportait pratiquement toute la population vers le Mède. On trouve ça en 2 Rois, chapitre 17, verset 6. Et dans le cours de temps, ils se sont mélangés avec d'autres peuples. Ils ont perdu leur propre culture et ont ajouté beaucoup de traditions et de cultures païennes dans leur façon de vivre et même d'adorer Dieu. Ils ont perdu leur droit d'être appelés juifs. Ce sont des 10 tribus perdues. Depuis lors, les Samaritains ont été traités d'une manière inférieure car ils n'étaient pas des juifs purs. Le sang, il était mélangé avec le sang païen. La Palestine n'est que 200 km de long du nord au sud. Mais dans les 200 km, il y avait à l'époque de Jésus 3 divisions définies du territoire. Dans l'extrême nord était la Galilée. Dans l'extrême sud se trouvait Juda. Et entre les deux, au milieu, la Samarie. Mais le chemin le plus rapide de la Judée à la Galilée, c'était à travers la Samarie. En utilisant cette route, le voyage pourrait se faire entre 3 jours. L'itinéraire alternatif pourrait être le double. Alors Jésus a dû passer par la Samarie. Il voulait prendre la route la plus courte vers la Galilée. De plus, Jésus n'avait pas de barrière raciale ou culturelle à franchir. C'est le Créateur lui-même qui vient vers sa créature. Ce que nous avons vu pendant ces 3 semaines, chacun vient d'un autre pays différent, d'un pays différent, de culture différente. Mais il n'y a pas de barrière de culture et la race et la couleur à notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, quand il dit que Jésus avait besoin de passer par la Samarie, la pensée n'est pas tant qu'il a été obligé de le faire pour des considérations géographiques, mais plutôt par le fait qu'il y avait une âme dans la souffrance à sauver en Samarie. Ce matin, nous avons adoré le Seigneur en pensant à sa grande sagesse. Il savait qu'il y avait une âme à sauver dans cette région de Samarie où les Juifs n'étaient même pas prêts à entrer. Ici, nous devrions nous rappeler que Jésus était 100% homme et en même temps, il était 100% Dieu. Il avait la connaissance sur les besoins humains. Il avait la capacité de connaître et comprendre les besoins de l'âme humaine. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée, vouloir rencontrer Jésus, au moins le voir perché sur un sycomore, mais Jésus a pris le chemin où se trouvait Zachée afin de le rencontrer, afin de rencontrer ce pécheur. Bien avant que Zachée ne puisse voir Jésus, un arbre a été planté pour répondre à ses besoins. Le Seigneur savait tout. Encore souvenez-vous de quelle manière Dieu a rencontré l'eunuque, l'Éthiopien, dans son chemin de retour chez lui, dans un plein désert. Une seule âme perdue. Le Seigneur rencontra par le biais de son serviteur Philippe, qui devait quitter le lieu d'un grand réveil spirituel en Samarie. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4, 24. Nous comprenons que la rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine n'était pas un simple hasard. L'hasard n'existe pas avec Dieu. Jésus était conduit par le Saint-Esprit de la même manière qu'il était conduit par l'Esprit afin d'être tenté par le diable. Il était complètement conduit par l'Esprit Saint. Ce n'est pas parce que les rencontres ont lieu lorsque nous les attendons le moins qu'elles sont fortuites ou circonstancielles. Ce sont des rendez-vous célestes. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. La femme samaritaine. Il fallait qu'il, je lis à partir de verset 4, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il vient donc à une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob donna à Joseph son fils. Il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus donc, étant lassé du chemin, se tenait là assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Le verset 6 nous dit qu'il était midi et que Jésus était fatigué du voyage. Certainement, il y avait un arbre, comme il y avait un puits d'eau, et il était assis là pour l'ombre et aussi comme il avait soif. Ce verset est là encore pour nous pour prouver que Jésus, le Fils de Dieu, était bien l'homme. Un véritable homme dans la chair, formé d'os et du sang. Comment le Dieu omnipotent peut-il être fatigué? Dieu n'a pas besoin de repos. Il est tout puissant. Il soutient et contrôle le mouvement du soleil, de la lune, des étoiles et l'ensemble de l'univers. Le Fils de Dieu, source de toute création, assis au bord d'un puits, désirant un peu d'eau pour étancher sa soif, quelque part dans un village poussiéreux en Palestine. Pouvez-vous imaginer cette scène? Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, dit la parole de Dieu. Mais son désir pour faire la volonté de son Père a été plus grand que sa soif physique. Une soif qui ne peut être étanchée par les eaux douces du puits de Jacob, ou bien par la potion du vinaigre mêlé du fiel qu'il a eu sur la croix. Regardez ce qu'il dit à ses disciples dans le même chapitre de Jean, versets 32 à 34. Jean 4, 32 à 34. « Moi, j'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas. » Les disciples donc dirent entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Nous allons continuer avec le verset 7. « Une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples s'en étant allés à la ville pour acheter des vivres, la femme samaritaine lui dit donc, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Voyez, c'est le même moment que le disciple de Jésus, il part dans la ville en Samarie pour acheter des vivres, pour quelque chose pour manger. Cette femme, elle vient, elle quitte la ville pour venir pour puiser de l'eau. Et c'est là qu'elle rencontre le Seigneur Jésus. Verset 10, Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, toi tu lui eusses demandé et il t'a donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ?» Et je ne sais pas, de nos jours, peut-être les jeunes ne peuvent pas comprendre c'est quoi une puits. Hein? Je suis certain, beaucoup d'entre eux, ils n'ont jamais vu une puits d'eau. Et un puits, c'est creusé, et ce puits, apparemment, c'était de 100 pieds. Donc, comment on peut puiser de l'eau de ce puits? Il faut avoir un seau ou quelque chose. Normalement, les voyageurs, ils avaient une ustensile faite normalement avec du cuir, des animaux, et avec lesquels ils puisaient d'eau. Mais cette femme, elle voit que Jésus, il était assis au bord de la puits. Elle demande, mais comment tu peux donner l'eau vive? Tu n'as rien. Le verset 11, la femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pu puiser et puis est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits et lui-même en a bu et ses fils et son bétail? » Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie pas soif et que je ne vienne pas ici pour puiser. » Comme Jésus était assis là, une Samaritaine est venue au puits. Pourquoi sa venue à ce puits relève d'un mystère? Car il était plus d'un kilomètre de Sichar où elle a dû rester. Il y avait de l'eau là-bas. Peut-il qu'elle ait été tellement méprisée que les femmes l'ont même chassée depuis le village et qu'elle a dû venir ici pour puiser de l'eau? Jésus lui demande de lui donner à boire. Elle se retourna dans l'étonnement. « Je suis samaritaine, dit-elle. Tu es juif. Comment se fait-il que tu me demandes à boire ?» Et puis Jean explique au grec, à son auditeur, pourquoi il écrit qu'il n'y avait aucune communion sociale entre les juifs et les samaritains. Maintenant, il est certain que tout ce que nous avons ici est le rapport le plus bref possible de ce qui a dû être une longue conversation. Il est clair qu'il y avait beaucoup plus à cette conversation que ce qui est enregistré ici. Si nous pouvons utiliser une analogie, c'est comme le procès-verbal d'une réunion, d'un comité, où nous avons que le point important de la discussion est enregistré. Je pense que la Samaritaine a dû libérer son âme à cet étranger. Comment Jésus aurait-il pu connaître autrement ses affaires intérieures, ses affaires? Pour l'une de des rares fois de sa vie, elle avait trouvé un autre être humain avec de la bonté dans les yeux. Au lieu d'une supériorité critique, elle ouvrit son cœur. Peu d'histoires dans l'Évangile nous en montrent autant sur le caractère de Jésus. Ça parle de sa compassion. Il nous montre la chaleur de la sympathie d'un chef religieux ordinaire, de l'un des chefs d'église orthodoxe de l'époque. La Samaritaine aurait fui dans l'embarras. Elle aurait évité une telle conversation. Si en tout cas, il lui avait parlé, elle aurait rencontré avec honte et même un silence hostile. Mais parler à Jésus lui semblait être la chose la plus naturelle au monde. Elle avait enfin rencontré quelqu'un qui n'était pas en train de critiquer, mais un ami qui ne condamnait pas, mais qui comprenait. Mais parfois, on peut trouver que personne ne peut nous comprendre. Et là qu'on dit que notre meilleur ami, ça peut être que Jésus. C'est lui seul, il peut comprendre la douleur, le problème de notre cœur. La personne avec qui Jésus était en train de parler était une Samaritaine et en plus une femme. Les rabbins stricts ont interdit à un rabbin de même saluer une femme en public. Vous savez, les pharisiens, ils étaient les purs et Dieu. Un rabbin ne peut même pas parler à sa propre femme, fille ou sœur en public. Il y avait même des pharisiens qui étaient appelés le pharisien meurtrier et saignant. Parce que dès qu'il voit une femme, il fermait les yeux, il courait tout droit, et il voulait s'aller cogner contre un mur ou une mur des maisons, et il saignait. Et tellement il était ostentatoire pour montrer qu'il était tellement pur qu'il ne voulait pas avoir une femme dans le public. Mais ici, nous voyons que Jésus, il était assis sur le bord de puits. Il était en train de parler avec une femme. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Une femme qui a eu une vie immorale. Tout le monde savait. Mais Jésus, il n'avait pas honte de parler avec cette femme. Quelle différence entre ces pharisiens et Jésus. Pour un rabbin, d'être vu parler à une femme en public a été la fin de sa réputation. Et pourtant, Jésus a parlé à cette femme. Non seulement était-elle une femme, c'était aussi une femme de mauvais caractère. Aucun homme décent et encore moins un rabbin n'aurait été vu en sa compagnie, ni même échangé un mot avec elle. Et pourtant, Jésus lui a parlé. Pour un juif, c'était une histoire incroyable. Voici le Fils de Dieu fatigué et assoiffé. Voici le plus saint des hommes écoutant avec compréhension une histoire si terrible. Jésus a franchi les barrières de la nationalité et de la coutume juive orthodoxe. Voici le début de l'universalité de l'Évangile. Voici l'histoire qui nous démontre comment Dieu a tant aimé le monde, non pas seulement en théorie, mais en action. Regardez le verset 10. Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire, toi tu lui eusses demandé, et il t'eût donné de l'eau vive. » Ayant capté son attention et stimulé sa curiosité, Jésus lui adressa une énigme pour amener à réfléchir. C'est comme s'il lui avait dit « Ton étonnement serait infiniment grand si tu savais vraiment qui je suis. » Vous savez, dans le verset 10, « Si tu connaissais, ça change beaucoup de choses. Si tu savais vraiment qui je suis, c'est toi qui demanderais à boire, pas moi. » Il y a trois choses qui pouvaient la faire réfléchir. Qui est-il, cet homme, avec qui cette femme qui était en train de parler? Qui est-il? Quel est le don de Dieu dont il parle? Elle parle de don de Dieu. Et troisièmement, quelle est cette eau vive? Donc Jésus incite la curiosité dans cette femme. Oh mes chers amis, si seulement on peut connaître le Fils de Dieu, le Sauveur qui a tant aimé le monde. Mais beaucoup pensent qu'il connaît Jésus-Christ. Mais si seulement on peut connaître le Fils de Dieu, le Sauveur qui a tant aimé le monde, si seulement tous peuvent connaître ce don de Dieu pour la recevoir, et si seulement le monde qui est fatigué et assoiffé pouvait venir à ces vives eaux pour étancher sa soif. Ça suffit de rester dans un gare à Paris pour voir combien de gens qui traversent, qui sont en train de faire beaucoup de choses, mais ils sont perdus. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. L'homme, il court après beaucoup de religions, beaucoup de sectes, beaucoup de choses qui promettent beaucoup de bonnes choses. Mais les citernes crevassées, il faut noter que cette conversation avec la Samaritaine suit exactement le même schéma que la conversation de Jésus avec Nicodème dans le chapitre précédent de cet évangile. Jésus fait une déclaration, la déclaration prise dans le mauvais sens. Jésus refait la déclaration d'une manière encore plus vivante. Il est encore mal compris et puis Jésus oblige la personne avec qui il parle à découvrir et faire face à la vérité pour elle-même. C'était la façon habituelle d'enseigner de Jésus. Et c'était un moyen très efficace, car comme quelqu'un l'a dit, il y a certaines vérités qu'un homme ne peut accepter. Il doit les découvrir par lui-même. Tout comme Nicodème, la femme a pris les paroles de Jésus littéralement, quand elle était censée de les comprendre spirituellement. C'était l'eau vive dont Jésus parlait. Dans la langue ordinaire aux Juifs, l'eau vive était l'eau courante. C'était l'eau du cours d'eau en cours d'exécution et en contradiction de l'eau de la citerne stagnante ou d'un étang. Ce puits, comme nous l'avons vu, n'était pas un puits qui jaillit d'une source, mais un puits dans lequel l'eau du sous-sol. Pour le juif, l'eau courante, l'eau vive du ruisseau était toujours mieux. Alors la femme dit, tu veux me donner l'eau vive, l'eau pure du ruisseau, d'où tu vas l'obtenir? Mais les juifs avaient une autre façon d'utiliser le mot eau. Ils parlaient souvent de la soif de l'âme pour Dieu. Ils parlaient souvent de l'étancher, d'étancher cette soif avec de l'eau vive. Jésus n'utilisait pas des termes qui devaient être mal compris. Il utilisait le terme que toute personne ayant une perspicacité spirituelle aurait dû comprendre. En Apocalypse 21:6, nous lisons ainsi, « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de la vie. » Et encore, à Ésaïe 12:3, « Et vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du salut. » Et nous connaissons bien le psaume 42:1, « Comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. » Donc, pour un juif, c'était très clair. Quand le Seigneur il parlait de l'eau vive, pour un juif, c'était très clair. La langue religieuse pictorale juive était pleine de cette idée de la soif de l'âme qui ne pouvait être étanchée avec l'eau vive qui était le don de Dieu. Mais la femme a choisi de comprendre cela avec un littéralisme presque brut. Elle était aveugle parce qu'elle ne voulait pas voir. Je pense que parfois quand le Seigneur nous parle, nous pouvons être aussi comme cette femme. Dans le chapitre 3 et 4 de l'évangile de Jean, nous voyons deux personnes très distinctes de l'un de l'autre. Les deux avaient besoin d'être sauvés. Les deux ont eu le privilège de voir et discuter avec le Seigneur Jésus. La plus belle parole de Jésus est prononcée dans ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Voyez dans quel contexte se trouvent ces versets, Jean 3, 16 et 17. Et ce deux chapitre parle de ces deux personnes très différentes, un qui était très éduqué, un pharisien, des pharisiens, et l'autre c'était une femme immorale, pas éduquée, une paysanne. Nous allons voir le contraste entre Nicodème et la femme samaritaine. Et Nicodème, il rencontre Jésus à Jérusalem, c'est à Juda. La femme samaritaine, elle rencontre Jésus à Samarie, un lieu très probable pour que Jésus, il vient. Et Nicodème, il vient dans la nuit. Mais la femme samaritaine, elle rencontre Jésus dans le jour, pendant qu'il est encore jour. Et Nicodème, son visite était planifiée. Mais la rencontre de cette femme samaritaine n'était pas planifiée, c'était fortuite. Parce que Nicodème, il voulait venir voir dans la nuit. Et si nous allons voir la conversation entre Nicodème et le Seigneur, la parole de Nicodème, c'était très théologique. Mais la conversation de cette femme avec Jésus, c'était très pratique. Et nous connaissons le nom de Nicodème, mais nous ne connaissons pas le nom de cette femme. Son nom, elle n'était pas mentionné. C'est simplement la femme de Samarie. Et Nicodème, il était un homme. Être un homme dans cette société juive, c'était quelque chose. Peut-être pas aujourd'hui, mais à cette époque, les hommes étaient favorisés et les enseignants ne parlaient normalement même pas aux femmes. Et Nicodème, c'était un juif, cette femme, c'était une samaritaine. Et Nicodème, il fait partie d'un bon groupe de gens, des docteurs de la loi. Mais par contre, cette femme, elle faisait partie d'un groupe méprisé, un groupe des gens méprisés, les Samaritains, avec de mauvaises croyances et pratiques. Et même parmi ce peuple méprisé, elle était une femme méprisée par son propre peuple à cause de sa vie. Et lui, au moins dans ses yeux, il était injuste. Mais la femme samaritaine, c'était une pécheresse. Et Nicodème était un pharisien. Il était connu pour être rigoureux et pieux. Elle vivait avec un homme qui n'était même pas son mari. Nicodème, c'était un chef très respecté, maître. Il était un dirigeant et jouissant d'une place de premier rang dans sa société. Elle était méprisée, immorale. Elle était seule au puits, très probablement parce qu'elle était rejetée par les autres femmes de Sichar. Il a été éduqué. Jésus l'appelle Nicodème comme un docteur en Israël. Elle n'était pas instruite. Elle aurait eu peu de formation, comme ce fut le cas pour la plupart des femmes en ce jour. Nicodème s'efface, le dialogue devient un monologue. Si vous voyez la conversation entre Nicodème et le Seigneur, il commence avec beaucoup de mots, et petit à petit, je pense que quelqu'un qui a calculé, il commence avec 24 mots, après ça devient 14, après ça devient 4 mots. Après, il disparaît. Et seulement le Seigneur qui parle après. Le dialogue se poursuit jusqu'à la fin avec cette femme. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette rencontre de Nicodème avec le Seigneur? On ne sait pas. Au moins à ce stade, on ne savait pas. Mais la femme se convertit. Elle témoigne. Et les gens, ils croient sa parole. Ils viennent vers Jésus. Et chacun, on rencontre le Seigneur différemment. Chacun de ces trois personnes, nous avons entendu leur témoignage, ce n'est pas la même chose. Le Seigneur, il touche chacun différemment. Mais le même Dieu, il est tendre avec ses enfants. Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5. En conclusion, la femme samaritaine n'a jamais pensé qu'elle allait rencontrer Jésus un jour, le Saint-Fils de Dieu. Elle fuyait même les gens à cause de sa vie morale, immorale. Elle venait chercher de l'eau pour étancher sa soif physique, mais elle a retrouvé la source même des eaux vives. Même si ces questions au départ de la conversation avec Jésus sont de nature critique. Vous savez, quand Jésus il parle avec cette femme, elle avait un air très critique de Jésus. Toi, tu es juif, comment ça que tu parles avec un samaritain? C'est jamais entendu, ça passe jamais comme ça. Mais comment tu parles avec... Elle avait un air très critique de Jésus. Elle venait chercher de l'eau pour étancher sa soif physique, mais elle a retrouvé la source même des eaux vives. Même si ces questions au départ de la conversation avec Jésus sont de nature critique, ses paroles sont de plus en plus sincères. Elle progresse dans sa compréhension de Jésus. Elle a d'abord vu Jésus comme un juif il adresse Jésus comme un juif, et l'appelait monsieur, puis il l'a perçu comme un prophète. Quand Jésus dit les choses par rapport à sa vie, puis elle reçoit de Jésus une révélation claire de son identité en tant que Christ. Voyez l'évolution dans sa vie, même pendant la conversation. Quand Jésus pose la question directement sur sa vie et le péché, elle essaie d'excuser avec les questions sur l'adoration et d'autres choses sur Dieu. Et souvent, quand nous rencontrons les gens qui ne sont pas sauvés, mais souvent ils posent beaucoup de questions. Et beaucoup de questions, c'est pour éviter qu'on vienne directement à leur vie. Mais nous voyons la patience de Jésus qui répond à toutes ces questions dans la simplicité et clarté jusqu'au point que cette femme comprend la misère de son cœur. Et nous-mêmes, combien de fois nous étions de cette manière en train de poser des questions? Au moins, moi, j'étais comme ça. C'est une ironie de voir que cette femme samaritaine qui a été méprisée par les gens de son ville ou village, que ces gens devraient trouver le sauveur du monde par le biais de cette femme. Le verset 40. Dieu honore celui qui s'approche avec un cœur sincère. Elle n'a démontré aucune prétention. Elle était vraie. Elle était ignorante, mais elle était vraie. Elle devient un disciple faisant l'œuvre de Dieu. Quelques leçons pour nous qui venons à Jésus et que Jean veut que nous retenions pour nous de la façon dont il raconte ces histoires côte à côte. À la lumière de la façon dont le royaume peut inverser les choses. Ne jugez pas les autres. Dans Luc 6, 36, Jésus dit, « Ne jugez pas et ne condamnez pas. » Il nous enseigne que nous ne devrions jamais radier les autres comme au-delà de la miséricorde de Dieu. Mais si c'était les hommes, Nicodème il aurait pu trouver leur approbation, et pas cette femme. On ne peut pas radier quelqu'un comme au-delà de la grâce rédempteur de Dieu. Peu importe comment il pourrait nous apparaître avec nos attentes, nous ne pouvons jamais faire cet appel. Ce n'est pas à nous de dire que quelqu'un est déjà jugé et mis de côté. Nous aussi, nous devrions inviter tous à entendre et recevoir l'Évangile, tout comme Jésus dans l'histoire de la Samaritaine. Tout comme Jésus l'a dit dans Matthieu, « Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. » Nous ne pouvons pas laisser nos attentes et nos hypothèses sur qui pourrait répondre à Jésus se mettre à travers de la route. Dieu est occupé à apporter toutes sortes à lui-même. Il est notre travail d'être miséricordieux et ouvert à tout ce qui pourrait venir à Jésus pour trouver l'eau vive et la vie éternelle. Combien de fois quand nous parlons avec eux, nous essayons de témoigner avec les gens autour de nous, hein? C'est très, très difficile. Et on peut savoir que si c'est difficile, si seulement nous essayons de témoigner. Et parfois, très vite, on dit que non, on ne peut pas parler avec lui parce qu'il part dans un sens, au moins je ne peux pas parler avec lui. On jette l'éponge. Non, Dieu voit le cœur de chaque personne. Et bien souvent, quand parfois nous trouvons les gens qui font beaucoup de blagues, qui s'excusent, ils n'entrent pas dans la conversation quand nous voulons parler de salut. Et derrière les blagues, bien souvent, ça cache beaucoup de larmes. C'est pourquoi nous invitons tous à le faire. Ne vous découragez pas si vous n'êtes pas à la hauteur des attentes qui pourraient répondre à Jésus. Peut-être que vous êtes dans la même situation comme la femme samaritaine. Mais ne vous découragez pas, soyez encouragés. Vous êtes la personne que Dieu aime profondément. Vous êtes la personne même que Jésus cherche. Dieu veut que vous veniez à lui pour le rencontrer. Dieu veut toucher votre vie pour que vous vous transformiez et que vous soyez bénis de cette vie éternelle. Pour conclure, je vais juste lire ce passage, je pense que c'est de Matthieu, je n'ai pas noté. Jésus répondit et dit, « Je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Ni personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils voudra le révéler. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et notre travail, c'est simplement d'aller témoigner. Et on ne peut pas juger, on ne peut pas dire que cette personne, elle va accepter la parole, et l'autre, il ne peut pas accepter. Ce n'est pas nous, mais c'est la parole de Dieu qui fait son œuvre. Et bien sûr aussi, nous allons voir la personne par nos propres yeux, et nous serons très vite lâchés. Regardez cette femme samaritaine. Et la première chose qu'elle a fait, elle a rencontré le Seigneur, elle a trouvé le salut. La première chose qu'elle fait, elle court. Elle a même oublié son pot ou vase, ce qu'elle a amené, son ustensile, pour amener de l'eau. Elle a oublié, elle a couru vers son village et elle a parlé. Elle a dit que j'ai rencontré Christ le Sauveur. Et si nous avons rencontré Christ le Sauveur un jour dans notre vie, et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.